La première.
Podcast.
La première spéciale.
I'd like for y'all to help us get in the groove. Put your hair down and come on and get in the music with us. We'd like to have you all join in with us on this one and help us find the groove by patting your feet or popping your fingers or clapping your hands or shaking your heads. Shaking whatever else you want to shake. I'd like to have you all join in with us on this one. Join in with us on this one and help us find the groove. Help us find the groove. Find the groove. Help us find the groove. Help us find the groove.
La musique de Marc Moulin sur la première et la voix de Horace Silver, Who Stole the Groove, spécial Marc Moulin jusqu'à midi sur la première. Nous allons parler de Marc Moulin, de la musique, avec tout d'abord Telex, Michel Mours et Dan Laxman. Bonjour, merci messieurs, merci infiniment d'être venus à ce micro. Je sais que c'est très dur pour vous de parler de Marc ce matin. Ça a été votre compagnon de route depuis combien de temps, Dan?
Oh, moi, de très nombreuses années. On est 77 ou quelque chose comme ça, même peut-être avant. Je crois que c'est 77, oui, 78. Un peu avant la naissance de Telex. Donc,
Et vous n'avez jamais cessé d'arrêter. Vous avez toujours travaillé ensemble. Hein. Bon, il y a eu des moments où ça s'est passé. Oui, et puis ça reprenait parce que le contact était toujours là.
Ah oui, toujours. D'ailleurs, beaucoup de gens disaient, parce qu'on est resté à de longues périodes sans faire de disque avec Telex, mais tout le monde disait, ah, et votre groupe, vous avez splitté? Je dis, ben non, pas du tout. On est juste un peu paresseux, on a d'autres occupations, et de temps en temps, on fait un disque, donc, et on se revoyait, de toute façon, hors Telex aussi, évidemment, mais, et on a encore fait un disque il y a 2 ans, donc on se voyait assez régulièrement.
L'enthousiasme pour la musique, Michel Mours, pour la création, Marc Moulin, c'est ça, oui?
Écoutez, c'est difficile pour moi de parler de Marc aujourd'hui, j'ai plutôt envie de lui dire au revoir et de profiter des ondes en espérant que ça porte plus loin que ma voix. Et voilà. Ouais. Donc, je pense que s'il y a une émission, peut-être dans un an, je serai plus à l'aise.
Dan Laxman, c'est pour ça que je vous remercie d'être venu. On a des amis, on ne va pas citer les noms, mais qui ne peuvent pas encore témoigner. Parce que l'émotion est très forte quand même. Même si on savait, je répète, qu'il était malade, il y a quand même une émotion. Tous les amis qui sont là dans les couloirs, qui attendent de passer dans cette émission. Cette émotion quand même.
Oui, c'est un peu surréaliste. Moi, je suis encore un peu... Je suis encore un peu, enfin, presque hors de la réalité, donc c'est un peu bizarre, je pense, enfin, je voulais quand même témoigner de, parce que c'est ce qu'on peut faire de mieux, de choses que j'ai entendues tout à l'heure, des choses qu'on ne connaissait pas de Marc, et c'est vrai que c'était quelqu'un de tellement discret, trop discret, enfin, je pense, mais jusqu'au bout, c'était ça, il était comme ça. Et une chose, par exemple, que j'ai relevé dans ce qu'on disait, c'est que quelqu'un disait qu'il aurait voulu être noir. Et je trouve ça étonnant, parce qu'en fait, c'est vrai que une obsession de Marc, c'était le groove, par exemple. D'ailleurs, dans son album Who Stole the Groove, c'est le titre qui vient juste de passer, enfin, le Silver. Ouais. Et quand j'ai archivé les bandes de Telex il y a 2-3 ans, une chose qui m'a frappé, c'était les pistes. À l'époque, c'était très rudimentaire, la technique, donc il y avait beaucoup de choses qui étaient jouées, et c'était incroyable, les lignes de basse et les claviers, enfin, que Marc faisait avec la batterie programmée, c'est ce qui faisait le groove de Telex, quoi. Ça,
je me souviens un jour, je me suis retrouvé avec lui, on s'est retrouvé à plusieurs avec Alain Neff, c'est plein de gens, des amis à Washington, dans une boîte où il y avait que des noirs qui dansaient, et il s'est retourné vers moi, il m'a dit, tu vois, nous on ne dansera jamais comme ça.
Oui, mais c'est vrai.
Alors, nous avons rejoint Fabienne Van de Merge. Bonjour Fabienne.
Bonjour.
Alors, Marc Moulin, c'est toute une époque, hein, génération 80 aussi.
Ah ben oui,
Génération 80, et puis les Sparks aussi, puisque finalement le groupe Sparks, Ron et Russell Mayle, ont été vraiment le trait d'union entre Marc, Laurence, Dan, Michel qui sont là, et moi, parce que c'est à cause des Sparks qu'on s'est rencontrés, oui, et qu'on a été, qu'on s'est finalement jamais quittés. Et Ron et Russell sont en direct avec nous. Bonjour, ils sont à Los Angeles.
Bonjour Russell.
Bonjour.
Bonjour Ron. Alors,
bonjour.
Deux mots sur votre ami Marc Moulin. Russell, qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui?
De toute façon, nous sommes très tristes d'avoir entendu ces nouvelles de Marc et... Peut-être que je vais parler juste un peu en anglais parce que Ron est là aussi et il parle pas le français. Donc
ok, allez-y, on traduira. Oui, on traduira.
But, both of us, of course, are very sad to have heard the news about Mark's passing, and we just have nothing but wonderful souvenirs of our friendship with Mark, and of course all the other guys and the other guys in Telex as well, Dan and Michelle, and of course it started our whole relationship with our little Belgian team of Fabienne and Laurence and Michelle and Dan, and when we met Mark, it's probably about 25 years ago, 30 years ago now.
Started off with just an interview. He was interviewing us for Belgian radio, and usually with an interviewer, it's the next day you kind of forget about them. But there was some sort of chemistry between us, both in a musical way and a personal way, and we became really close friends and felt a real kinship musically, and it's really peculiar because even though I'm 6,000 miles away and kind of only saw Mark maybe once a year or maybe 6 months if I was lucky, I really considered him my best friend. It was that kind of relationship, and so it was really a fortunate circumstance that we got to do that one interview in Belgium in 1977, and it kind of amounted to so much more for us.
Okay, je vais traduire. I'm going to translate now. Ron, en fait, vous vous êtes rencontrés pour une interview, et puis ça a tout de suite collé entre vous, et puis vous êtes revus dans des émissions de télé au début des années 80, puis vous avez travaillé ensemble, vous avez travaillé avec Dan, et il y a eu tout de suite cette alchimie. C'est plus qu'une alchimie, Russell, c'est une amitié, a friendship.
Oui, exactement. Parce que il y a des, comme Ron a dit, nous faisons plein d'interviews partout dans le monde entier, mais nous avons fait cette interview avec Marc il y a 30 ans, plus que 30 ans, et il y avait quelque chose de plus avec Marc et nous, et on a resté amis depuis ce temps-là, et nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons fait de la musique ensemble. On a fait un album de Leo. Nous avons fait les paroles pour Leo en anglais pour un de ses albums. Et nous avons fait des paroles en anglais pour elle et Marc et Leo et Dan aussi. Nous étions ensemble au studio et aussi nous avons fait... Deux albums de notre groupe Sparks aussi. Chez Dan et Marc étaient là tous les jours aussi. Et nous avons fait plein de choses depuis ce temps.
Russell, vous avez demandé qu'on écoute une de vos chansons, une chanson des Sparks. C'est une chanson enregistrée chez Dan. Marc vous a aidé pour cet album. Pourquoi vous voulez écouter cette chanson?
Ça juste a des très bons souvenirs de cette époque quand nous avons travaillé beaucoup en Belgique, à Bruxelles, et surtout avec Marc. Et c'est juste un très bon souvenir de cette époque.
Merci beaucoup. Thank you very much, Ron et Russell, de votre témoignage depuis Los Angeles. Merci beaucoup et on vous écoute.
Merci.
Sparks, enregistré à Bruxelles dans les années 80, Fabienne Vanhemmerge.
Oui, c'était en 83, c'était donc au studio de Dan qu'on va retrouver dans quelques instants et c'était de l'album In Outer Space et c'est un album qu'ils ont enregistré ici. Je vous raconte pas, il y a sur la pochette intérieure de ce disque, il y a Ron et Russell au pied de l'Atomium. Je ne vous raconte pas le nombre de fois que nous avons dû monter dans l'Atomium, aller dans les escalators, aller manger du Waterzooi avec Dan, Michel, Laurence et Marc évidemment et ce sont de très belles années de notre vie.
Merci Fabienne. Il est 10h23, spécial Marc Moulin jusqu'à... Spécial Marc Moulin jusqu'à midi sur la première. Nous avons avec nous Philippe Catherine. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors, vous, j'imagine vous aussi, vous êtes très ému. C'est un ami, un partenaire, Philippe Catherine et Marc Moulin, c'était deux noms qui allaient bien ensemble, non?
Ben écoutez, on est amis depuis les années 60 et c'est un ami, à la fois un ami et un père en quelque sorte pour moi. C'est quelqu'un de très précieux qui part.
Quel souvenir vous avez le musicien qu'il était, c'était quelqu'un qui vous inspirait?
Mais c'est-à-dire sa grande culture de musique et son discernement pour les choses qui étaient importantes, je crois. On avait bien parlé, on se voyait surtout dans les années 70, on écoutait James Brown ensemble, Miles Davis, enfin plein de musiques différentes, et je trouvais qu'il avait beaucoup de discernement, un discernement qui m'a toujours été utile en fait.
Il a produit vos disques, est-ce que c'était quelqu'un, enfin certains de vos disques, est-ce que c'était quelqu'un d'exigeant musicalement?
Mais écoutez, il ne montrait, enfin, sans doute, mais il ne montrait pas, quand il a produit Guitars en 75 et mon dernier, et le dernier album récemment, je dirais que c'est l'art d'écouter qui était incroyable chez lui. Il avait vraiment cette capacité d'écouter et de valoriser ce que les autres faisaient. Et en quelque sorte, il a été de tout bon conseil. Enfin, j'avais vraiment une très, très grande confiance, et j'ai toujours une très grande confiance dans les conseils ou les analyses de Marc.
Puis il y avait l'amitié, Philippe Catherine. Bien Quand sûr. Marc Moulin travaille avec quelqu'un, ça devenait son ami, non ?
Oui, c'était à la fois une relation super professionnelle, mais à la fois très amicale. Est très fidèle. Je dirais qu'il avait c'est difficile de résumer Marc Moulin, c'est très très difficile. Il avait sa grande tendresse pour les autres, sa fidélité et cet art d'écouter que j'ai signalé là tout à l'heure. Quand j'ai fait mon dernier album, j'ai enregistré une trentaine de morceaux, hein, en plusieurs semaines, hein, et je lui ai envoyé tout par MP3 chaque morceau, et il a fait un commentaire. Il a pris le temps, ce qui est incroyable. Il a pris son temps précieux pour me répondre sur chacune des versions et me donner son avis.
C'est quelqu'un qui va vous manquer professionnellement parlant, Philippe Catherine.
Absolument, oui. Absolument.
C'est quelqu'un qui a eu un impact aussi dans le monde du jazz, hein, en Belgique. Il disait souvent, oui, mais le jazz n'a pas commencé qu'avec moi. C'est vrai qu'il y a eu... mais quelle importance il a eu dans le monde du jazz.
Mais il criait des choses fraîches tout le temps. C'était tout le temps frais ce qu'il écrivait. Puis c'est un grand mélodiste, un grand compositeur. Et il l'a montré avec Placebo dans le temps. Et puis il l'a montré dans ses deux, trois derniers albums récemment. Et c'est une musique qui groove. En fait, c'est aussi un des aspects que j'aimais bien avec sa musique, c'est que ça groovait toujours.
Merci Philippe Catherine pour votre témoignage.
Je vous en prie.
On retrouve Dan Laxman et Michel Mours ici en studio. Le groove, c'était ce qu'ils voulaient quand vous faisiez vos enregistrements de Telex. Il fallait que ça swing.
Oui, enfin, non, même pas. Justement, c'était comme vient de dire Philippe. Discret, puisque on s'en rendait pas compte, mais ça faisait partie du résultat. Non, en fait, c'était plus festif. Telex, c'était vraiment, on avait une idée, on essayait, puis on était emballé, hop, on continuait, ou on laissait tomber, ou c'était vraiment plutôt comme ça. Mais aussi, c'est vrai, enfin, ce que disait Philippe aussi, une grande qualité de Marc quand il réalisait quelque chose, c'était en effet, c'était pas un producteur qui imposait un style ou qui disait il faut faire comme ci, comme ça. C'était quelqu'un qui mettait en valeur les meilleures qualités de l'artiste, ça c'est très vrai.
Est-ce qu'il avait cette exigence, Michel, qu'on retrouve dans d'autres domaines, comme la radio par exemple, et ce côté, il coupait un cheveu en quatre, repenser.
Marc était un concepteur, donc un artiste, mais un concepteur avant tout. Donc je pense qu'effectivement, il voulait que les idées, que le résultat corresponde à l'idée. Donc, fatalement, c'est une
avec toujours exigence. Le oui, mais non.
Non, je pense que il privilégiait quand même la spontanéité et l'esprit et plutôt que la technique. Ça je pense que.
Vous restez encore avec nous, s'il vous plaît, messieurs, parce qu'on va avoir Alain Chamfort avec nous dans quelques instants par téléphone. On écoute Philippe Catherine. La musique de Philippe Catherine sur la première. Il est 10h32, émission hommage à Marc Moulin.
Vous optez pour l'emballage ou pour le contenu? À vous de choisir. Pour recevoir l'écho gratuitement pendant un mois, surfez sur l'écho.be. Soyez de ceux qui comptent. L'écho.
La première. Restons curieux.
Spécial Marc Moulin, toujours avec Telex, Dan Laxman, Michel Mours, Jacques Duval nous a rejoint. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. C'est dur aussi pour vous parce que bon, c'est un ami de toujours, un compagnon de travail aussi. Je trouve que c'est très émouvant de vous voir venir là, parce que je ne m'attendais pas à ce que vous veniez, sincèrement, tous. Je me disais, bon, les gens sont tristes, ils ne voudront pas parler, mais finalement, il y avait quand même ce besoin, de témoigner, non ?
Oui, oui. Et puis bon, moi, personnellement, quand même, vis-à-vis de la mort, j'ai une approche peut-être un peu moins dramatique que la plupart des gens. Je ne pense pas que c'est quelque chose de... je pense que Marc a été un peu délivré quand même aussi de partir, quoi. Donc non, oui, effectivement, ce qui est triste, c'est qu'on ne le verra plus, quoi.
Voilà, exactement. Nous parlons du côté musical de Marc Moulin avec par téléphone Alain Chamfort. Bonjour Alain.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je ne dois pas vous présenter Dan Laxman, Michel Mours et Jacques Duval, Alain Chamfort. Alors vous, quel souvenir vous garderez de Marc Moulin ? Vous avez travaillé, vous avez fait plusieurs albums ensemble, vous avez travaillé ensemble. Quel souvenir vous gardez de Marc Moulin ?
On a travaillé presque une petite vingtaine d'années, quoi. Mmh. Enfin, c'était, je ne considérais pas que c'était du travail, quoi. Évidemment, c'était un accompagnement, quoi. C'était quelqu'un avec lequel on avait vraiment de la complicité. Bien entendu, musicalement, il a été d'un apport indéniable par rapport à toutes les collaborations qu'on a eues ensemble. On a co-signé beaucoup de chansons parce que c'était mérité. Je veux dire, il y avait vraiment une implication de sa part. Sur le plan musical, bien entendu que c'était... une collaboration précieuse, mais c'était bien au-delà de ça, quoi. C'est-à-dire que j'ai trouvé en lui vraiment quelqu'un, une véritable complicité, et quelqu'un qui était là, présent, à tout moment. Je veux dire, pendant cette période à laquelle on a travaillé ensemble, parce qu'on a décidé à un moment donné de poursuivre un petit peu nos routes d'une manière autonome, pour ce qui consistait de mon dernier album, inédit, quoi, sur lequel il n'a pas participé. Mais toutes les périodes où on a travaillé ensemble, c'était pas uniquement pendant qu'on réfléchissait à l'album, c'était aussi une fois qu'il était sorti. On avait des conversations à tout propos, on échangeait sur beaucoup d'événements qui passaient dans l'actualité, etc. Enfin, c'est quelqu'un qui m'a vraiment qui a été plus qu'un musicien pour moi et qu'un producteur. C'était vraiment un véritable ami, enfin quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, quoi, sur plein de plans, quoi.
Les Sparks tout à l'heure parlaient de leur rencontre avec Marc Moulin et parlaient Ron Mail d'une sorte de coup de foudre entre eux. Est-ce que ça a été pareil avec vous ? Est-ce que dès que vous l'avez rencontré, vous êtes dit on est les mêmes, il faut qu'on bosse ensemble ?
Oh, je sais pas comment ça s'est passé. Ça s'est passé sur pas mal de temps. C'est-à-dire qu'il c'était quelqu'un qui était, comme vous l'avez connu aussi, donc à la fois, sa générosité n'apparaissait pas comme ça, parce qu'il était, c'était pas un personnage extrêmement expansif, quoi. Donc il avait toujours une espèce de retenue, même dans la relation aux autres, et on découvrait sur le temps et sur la manière dont on sentait sa présence. Vraiment à tous les niveaux, quoi. Mais les premières fois que je l'ai rencontré, j'étais impressionné parce que je sais qu'il avait déjà travaillé sur Telex, sur l'album de Lio, entre autres, etc. Et puis que c'était quelqu'un qui avait une voix très posée comme ça et qui avait une attitude, on savait qu'il maîtrisait ce qu'il faisait, quoi. Voilà, il avait une espèce d'assurance sereine en lui, tout en étant timide en même temps. Donc c'était assez ambigu quoi, comme la façon dont on le percevait. C'était quelqu'un de réservé, de timide et en même temps avec une autorité quoi.
En même temps, et là je pose la question à Dan Laxman et à Michel Mours et Jacques Duval, quand on bossait avec Marc, on faisait partie du clan, des amis. Hein. Dan, vous les avez vus passer, vous les amis de Marc dans vos studios hein? C'est ça, quoi, oui. Non? C'est les amis, quoi. On devenait les amis.
Bah oui, bien sûr, oui. C'était, ouais. comme dit Alain, ça a toujours été des séances super agréables, il n'y avait jamais de tension, c'était créatif, quoi. C'était vraiment, on mettait toutes les idées ensemble, on allait jusqu'au bout, ça se passait toujours d'une façon détendue, tout ça, c'était...
Quand on travaillait avec lui, Jacques Duval, c'était quelqu'un de très exigeant, ou il vous laissait aller, ou il faisait confiance?
Moi, en fait, j'avais un rapport un peu. Lui, il faisait la musique et moi, je faisais les paroles quand on travaillait ensemble. Et, ouais. Et il m'a toujours laissé tout à fait libre de faire ce que je voulais. Donc, enfin, moi, je me suis toujours bien amusé avec lui, quoi.
Et vous, Alain Chamfort, c'était quelqu'un d'exigeant quand vous travailliez ensemble?
Ben, c'était quelqu'un de subtil, quoi. Donc, on appréciait mutuellement nos apports respectifs quoi dans le travail qu'on était amené à faire ensemble. Souvent on procédait par échange quoi. Moi j'arrivais avec des d'idées ou c'est inversement lui me proposait des choses et puis on complétait et c'est un travail très très rare quoi. C'est des collaborations comme ça, elles sont assez exceptionnelles. Moi j'en ai eu deux dans ma vie. La première était avec Jean-Noël Chaléa. Et la deuxième avec Marc, et ça c'est voilà, c'est très difficile de trouver une espèce de complicité comme ça, c'est-à-dire qu'à la fois il faut être porté par avoir une sensibilité à ses proches quoi, parce que être sensible à un type d'harmonisation qui nous corresponde, à un type rythmique. Enfin, Marc avait une appréciation de la rythmique tout à fait particulière et rare, je dirais. Il était très sensible au rythme noir américain, enfin au jazz, tout ça. Et il savait très bien faire tourner les choses, alors que c'était pas évident quand on voit ce personnage un peu massif comme ça, un petit peu quelquefois assez maladroit, je veux dire, et en même temps qu'il y avait une notion très précise de la rythmique et comment faire tourner les choses et comment rendre les choses très dansantes. Voilà, on allait vers le même but et chacun en apportant son savoir-faire et le sien était vraiment inestimable, quoi.
Merci pour ce témoignage, Alain Chamfort. On va vous écouter, on va écouter Clara veut la lune, musique Marc Moulin, parole Jacques Duval.
Chaque instant la surprend, et mademoiselle parle de se pendre s'il faut attendre. Clara veut l'été, de mars à février, pour que les grillons cessent pas de chanter et que ses gambettes soient bonnes. Je vois. dit l'amour. Clara, le vrai c'est pour toujours. Clara, elle dit on n'en fera jamais.
Alain Chamfort, Clara veut la lune, émission en main jusqu'à midi. Marc Moulin, on en parle avec Dan Laxman, Michel Mour, Jacques Duval. Parlons de l'ami. Ceux qui ne connaissaient pas Marc ne pouvaient pas savoir à quel point, quand on avait un problème, lui était là. Hein. Tous les trois, moi aussi, je peux témoigner. Dès qu'on avait un problème, Marc était là et c'était quelqu'un, bon, de discret, on l'a dit depuis 9 heures, mais c'était aussi quelqu'un de très très présent, non Jacques?
Oui, c'est vrai que, enfin, moi, quand j'ai eu des problèmes, il était là, quoi. Il m'a tendu la main. Et je, en plus, c'est un type, justement, qui était extrêmement pudique et tout ça, je pense que ça nécessitait un effort de sa part de faire ça. Donc, enfin, ça donne d'autant plus de prix à la chose.
Je voulais dire aussi, en fait, c'est aussi quelqu'un qui parvenait à ne pas se laisser embobiné dans la spirale de... Bon, parfois, quand on est avec un ami qui est mal, on se sent mal aussi, mais lui parvenait à raisonner la chose. Disons que ça permettait aussi de soi-même de se remettre un peu en question par rapport à ce qu'on vivait.
Dan ?
Mais oui, je suis d'accord avec ce que Jacques et Michel ont dit. C'est...
Ami présent dans les moments difficiles, mais dans les moments aussi heureux. Hein. Souvenez-vous, quand on faisait des cassettes d'anniversaire ensemble dans les années 80, qu'est-ce qu'on pouvait faire les imbéciles? Et il était toujours là pour faire des trucs vraiment idiots, non? Vous vous souvenez de ça?
C'est vrai que ce serait bien qu'on se souvienne vraiment de ça, parce que c'était un grand homme belge et tout ça, quoi, tu vois, mais c'était quand même...
Moi, c'est le truc que je me souviens, je vais vous dire. Moi, c'est son rire. Je le disais hier, c'est le rire, son rire. J'ai toujours adoré le faire rire parce qu'il avait un rire qui m'excitait énormément. Et donc, c'est physique. C'est bon, voilà. Et donc, j'ai repensé à ça. Et je repensais ce matin, justement, à ces cassettes d'anniversaire qu'on faisait avec Frédéric Janin dans les années 80, où on faisait vraiment les imbéciles, où on faisait des imitations et où lui avait un plaisir extraordinaire. Et c'était aussi pour nous très drôle de voir un gars comme ça, qui était quand même la référence et un type assez sérieux, etc., mettre une vieille casquette sur sa tête et prendre l'accent bruxellois. Adam.
Ben oui, quand il sortait une vanne, ça n'en avait que d'autant plus de valeur parce que c'était assez rare. Parfois, c'était tellement énorme qu'on était pliés.
Gilles Verland est avec nous. Bonjour Gilles.
Bonjour les amis.
Très triste aussi, hein, Gilles.
Oh, oui, non, je suis très très malheureux. Et samedi dernier, on faisait la fête à Jacques Duval au Forum à Liège. Ouais. Et Alain Chamfort est venu chanter Clara veut la lune au Forum devant tous les spectateurs. Dan était dans la salle. Et évidemment, on pensait tous très très fort à Marc parce qu'on savait qu'il était très malade. Et en fait, comme on l'a appris, il était mort la veille. Et je pense que s'il n'a pas voulu que ça se sache, il devait savoir que... Il savait évidemment qu'on faisait la fête à Duval et on aurait été détruits si on l'avait su le jour même. Et on pensait très très fort à lui et on ne savait pas qu'il nous avait déjà, quittés. Et donc, à travers la fête qu'on a faite à Jacques et à son talent de parolier, on a aussi fait en filigrane la fête à Moulin, parce qu'on l'a cité plusieurs fois dans la soirée. Moi, le seul truc que je veux dire, je pense à Laurence, je pense aux enfants de Marc, je pense aux chiens de Marc. Et je me dis que je fais partie de ces dizaines, de ces centaines de milliers de Belges qui ont grandi avec Marc Moulin dans leur oreille. Moi, les souvenirs de Crocodile, de King Kong, de Radio Crocodile, de King Kong, c'était sous l'oreiller avec le transistor. On s'endort avec le transistor, vous savez, ce qui fait cric 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 le matin, parce qu'on a écouté Marc Moulin pratiquement jusqu'au bout. Et c'est quelqu'un qui a formé mes goûts musicaux, et on est des centaines de milliers dans le cas, donc vraiment c'est quelque chose que je partage avec plein de gens. Il a formé mes goûts musicaux, il a formé... pour lui, il y avait deux sortes de musique, il y avait de la bonne et de la mauvaise, point. Et donc, on pouvait très bien être élitiste et très populaire, on pouvait très bien faire les deux. Il a formé mon sens de l'humour, mes goûts musicaux, et puis avec ce sens critique hyper développé qu'il avait, je pense qu'on est quelques enfants, quelques petits frères, quelques frangins de Moulin en activité, et que on va tenter de perpétuer son esprit, parce que il nous l'a soufflé dans le cerveau.
Gilles, c'était aussi quelqu'un qui avait encore une autorité, qui avait toujours une autorité.
Ah mais il m'impressionnait.
Moi, je me souviens que ça soit vous, moi ou d'autres qu'on va entendre tout à l'heure. Quand on lui demandait son avis sur quelque chose qu'on faisait ou qu'on allait faire, et qui disait, je pense que. On se disait, oula, oui. Attention ici.
On l'écoutait, c'est-à-dire que il faisait partie de mes héros, et j'ai eu le bonheur que ce soit devenu un ami très cher. On parlait d'anniversaire, tiens. J'ai sous les yeux le mail qu'il m'a envoyé pour mon dernier anniversaire, où il dit bonjour à la resplendissante, il parle de Annie, ma femme, et à vos épatants, il parle de mes enfants, et je relis ça, et je chiale comme un veau, effectivement, chaque fois que je le rencontrais, il m'impressionnait. Il avait un charisme naturel qui découlait à la fois de son autorité, parce qu'on savait qu'il avait un cerveau grand comme ça, et une manière de penser et d'analyser les choses qui était d'une justesse jamais mise en défaut. Et comme il était aussi très très timide, il était intimidant. C'est énorme ce qui nous arrive. C'est très très dur d'en parler. Moi, je pense vraiment à Laurence. Je pense vraiment aux enfants, et je pense à tous ceux qui ont été beaucoup plus proches que moi de Marc. Et je sais que Michel m'a fait chialer tout à l'heure. Et Jacques, ça doit être très très dur pour toi aussi.
Merci Gilles Verland pour ce témoignage. Messieurs, je vais vous remercier aussi d'être venus parler. Ça n'a pas été facile pour vous, mais merci quand même. Et on répète, il aurait détesté ça, mais tant pis pour lui.
Bien fait pour sa gueule.
D'ailleurs, je lui en veux un peu de nous avoir quittés comme ça.
Oui, c'est vrai. Il y a un petit goût comme ça, un petit peu une sorte d'amertume qui fait que. Mais c'était le personnage aussi. Hein. C'était.
Ouais,
c'est
ce qui. Comme ça, ouais.
Il était comme ça. Il faut aussi voir que. À un moment donné, il était comme ça et qu'il fallait faire avec. Merci Jacques, merci Michel, merci Dan Laxman, et on écoute Telex.
Leurs chansons sont fantastiques.
Telex, Moscow Disco, matinée émouvante ce matin sur la première. Thierry Coljean nous a rejoint.
Bonjour,
Thierry Coljean, vous avez écrit un livre sur Lévis de Marc Moulin. Vous avez entendu ce qui s'est dit. C'est très émouvant quand même.
Oui, je n'ai plus rien à dire là. Tout a été dit. Ça m'a... Parce que bon, tous ceux qui sont passés que j'ai entendus, bon, sont des amis également et ça. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la question. C'est vrai que dans ce livre, Les Neuf Vies de Marc Moulin, je tiens à dire que c'est lui le responsable du titre, parce que c'est la seule fois que j'écris beaucoup de livres. Et chaque fois, c'est un auteur qui trouve le titre tout de suite.
Ouais.
Et là, le titre provisoire, c'était L'ami pudique. Je me disais, l'ami public, numéro un, l'ami pudique. Ouais. Et puis, il dit, tu crois pas qu'on va croire que c'est un truc entre nous deux, entre amis? Je dis, oui, t'as raison. Mais je trouvais rien d'autre. Ouais. Et puis, c'est lui finalement qui a trouvé Les Neuf Vies de Marc Moulin, parce que simplement, il y avait 9 chapitres, tout bêtement. Donc voilà.
Et si, c'était pas trop compliqué, parce que comme c'est un, ce que je disais, tout à l'heure, c'était un spépieux, c'était quelqu'un qui relisait, j'imagine, tout ce que vous avez écrit pour qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'un mot ne soit pas mal pris.
Oui, j'y tenais d'ailleurs, je voulais que ça se fasse avec lui. Au début, quand je lui en avais parlé, que c'était purement c'est un truc d'égoïste. Je voulais vraiment faire un livre avec lui pour être avec lui le plus de temps possible. C'est vraiment parce que je l'adorais. Et c'est vrai que c'est un casanier, donc il sort très peu, on le croise pas facilement dans les cocktails, tout ça. Donc j'avais vraiment envie. Et une fois que j'ai eu l'accord de mon éditeur, Luc Pire, qui est tout aussi fou, qui a dit oui, vas-y, c'est évident avec Marc. Donc c'était un plaisir fou de passer du temps avec lui. Et puis, quand au début, il me dit, mais tu crois que ça va intéresser quelqu'un? Mais qui veut? Et je lui dis, écoute, si un éditeur dit oui, d'abord, c'est son boulot aussi, il dit oui. Il dit, ah oui. Et puis, deuxième chose, c'est que ce serait peut-être l'occasion de parler de tous les gens durant 40 ans tu as rencontré, avec qui tu as travaillé. Alors du coup, ça l'intéressait de parler des autres, en fait. Des autres. Et c'est vrai que moi, je tenais à tout prix à ce qu'il participe et qu'il relise. Et heureusement qu'il était là pour tout relire, tout corriger. Car je suis sûr qu'il n'y a aucune faute dans ce livre.
C'était quelqu'un, justement, effectivement, que vous disiez, quand on était avec lui, ne fût-ce qu'un quart d'heure, 10 minutes ou un quart d'heure, on ressortait toujours avec quelque chose de plus. Hein.
C'était de l'or. Vraiment, il nous grandissait, il nous donnait confiance. C'était quelqu'un de très généreux. C'est-à-dire qu'il nous écoutait. C'est vrai qu'il avait une culture énorme. Et on était là aussi pour écouter ça, mais il ne l'étalait jamais, cette culture. Ce qu'il aimait bien, c'était l'échange, apprendre des choses. Il était très, très curieux. Donc, il voulait apprendre de vous comme nous apprenions de lui. Et donc, c'était un plaisir partagé. Passer une soirée, un après-midi avec lui, c'était vraiment un vrai bonheur. Parce qu'en plus, c'était très drôle. On rigolait tout le temps. Vous êtes bien passé pour le savoir.
Oui, bien sûr. Vous savez, les hommages sont très émouvants dans la presse, hein, évidemment chez vous, dans le journal Le Soir, Thierry, mais partout dans La Libre, dans la DH et dans les autres journaux, c'est à la fois émouvant et très respectueux. Hein.
Oui, tout à fait, parce qu'encore un collègue hier m'appelait en disant, écoute, si je suis journaliste, c'est grâce à lui, c'est lui qui m'a donné envie. Et je pense qu'on est très nombreux à la RTBF comme ailleurs à lui devoir énormément, parce qu'il nous a peut-être pas lancé dans le métier, mais surtout il nous a formé notre esprit. Ce sens de l'humour, ce côté piquant, comme ça, mordant, et en même temps, ces goûts musicaux, tout ça, ça nous a formés, et je pense qu'on peut parler d'une génération de journalistes qui lui doivent énormément.
Thierry Coljean, merci de votre témoignage. Dans quelques instants, les informations de 11h sur la première. L'hommage à Marc Moulin continue, et on parlera de Radio-Cité avec des extraits très drôle, c'est privé, très drôle, on l'entend rire. Et puis, on va parler évidemment du jeu d'Edico. Vous restez bien avec nous. C'est l'hommage à Marc Moulin sur la première jusqu'à midi.